féminisme de
Françoise Mariotti. Bonjour auditeurs, auditrices, auditeurices. C'est Françoise Mariotti au micro sur FM+. Et nous allons parler aujourd'hui de l'éducation à la sexualité et la prévention des conduites prostitutionnelles. Je reçois Gaëlle Henry du mouvement d'Uni. Bonjour Gaëlle.
Bonjour.
Je vais présenter l'association, on va présenter ensemble l'association dans deux minutes, mais le contexte de cette émission, puisque j'ai fait une émission sur la prostitution pour le mois de mars, c'était généraliste, je parlais de l'abolitionnisme, mais en fait, on sait quand on s'intéresse à la prostitution de jeunes mineurs, qu'il y a entre 6 000 et 10 000 mineurs aujourd'hui, victimes de prostitution en France, et on sait d'après les études qu'il s'agit majoritairement de filles de nationalité française qui sont fragilisées par leur parcours de vie. Alors, concernant l'interdiction de la prostitution des mineurs, il y a une loi qui est bien antérieure à la loi abolitionniste de 2016, qui est la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale. C'est un peu bizarre de l'associer à ça, mais en fait, cette prostitution est interdite sur tout le territoire de la République. J'aime pas trop la formulation de, entre guillemets, tout mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, est réputé en danger, ça c'est sûr, et relève de la protection du juge des enfants. Parce que se livrer à la prostitution, c'est pas le bon terme, on va en discuter toutes les deux. Mais si on se tourne de l'autre côté, le fait des clients, c'est quand même puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Et on sait que les clients en France, on les voit pas, ils sont toujours invisibles. C'est bizarre parce que c'est quand même quelque chose qui se fait à deux. Bref, voilà le contexte de l'importance de la prévention et c'est pour ça que je vous ai invité. Alors Gaëlle Henry, vous êtes chargée de développement au mouvement d'Uni. Et vous allez me présenter votre association, le mouvement d'Uni. Qu'est-ce que c'est comme association ?
Alors, le Mouvement d'Uni, c'est une association nationale, une association qui agit sur les causes et les conséquences de la prostitution. Donc, on va à la rencontre des personnes en situation de prostitution, on les accueille, on les accompagne, et puis on va, selon leurs besoins et leurs demandes, proposer différents dispositifs, différentes alternatives en fait, à la prostitution si elles le souhaite, mais on accueille toute personne qui a connu ou qui est en situation de prostitution et on va se caler par rapport à ses demandes et ses besoins. Et puis à côté, en parallèle, on va travailler également sur la sensibilisation du grand public. Donc on peut participer ou organiser des événements qui nous permettent d'aborder la question du système prostitutionnel avec des expositions, des conférences, des ciné-débats par exemple. Et on mène également des actions de prévention auprès des jeunes. Donc ici, nous, dans l'Hérault, pour la délégation de Montpellier, on va rencontrer des jeunes de 12 jusqu'à 25 ans et on va proposer des groupes de parole pour réfléchir avec eux sur la question des stéréotypes de genre, mais aussi travailler sur la question de la vie affective, vie relationnelle.
On va développer tout ça. Vous êtes combien de délégations en France ?
On a 28 délégations actuellement au Mouvement d'Uni. La dernière qui s'est créée, c'est en Martinique.
D'accord. Parce que vous créez des délégations sur demande des préfets, des services aux droits des femmes. Comment ça se passe ?
Ça va dépendre des territoires, donc ça peut être ça. Ça peut être aussi des bénévoles qui vont décider de créer une délégation. D'accord. Et donc ils vont être marrainés par une autre délégation qui va porter au début la création de la délégation. Donc ça va dépendre des réalités des territoires et des ressources humaines.
J'entends le mot féministe, hein, marrainé, merci. Si on pouvait continuer comme ça. Parce qu'en fait, il y a très peu de salariés au Mouvement d'Uni, c'est surtout des bénévoles que vous formez. Hein, c'est pas n'importe qui peut faire ces actions. Il y a une formation sérieuse, des entretiens, voilà. Donc, vous intervenez en prévention. Moi, je suis allée voir vos outils. Ça fait longtemps que j'ai entendu parler du Mouvement d'Uni, depuis mon arrivée à Montpellier dans les années 90. Et j'avais connu, moi, la BD « Pour toi, Sarah ». C'est une BD sur une jeune fille qui était dans la prostitution et avec tous les dangers, tout ce qu'elle vivait de violent et comment elle s'en sortait. Donc déjà, je remarquais que vous aviez des outils de prévention à destination des jeunes qui pouvaient être aussi accessibles à un public plus âgé, pas forcément concernés. Et je sais que dans la radio FM+, qui nous accueille aujourd'hui, il y a des adultes, il y a des parents, des grands-parents qui écoutent. Donc tous les outils dont on va parler avec vous, Gaëlle, ils sont utilisables pour sensibiliser, pour alerter. Hein. Voilà. Donc prévention, on peut dire directe et indirecte.
Oui, on fait de la prévention directe, donc on rencontre des jeunes lors de nos groupes de parole, mm-hmm. mais effectivement aussi indirect, puisque tous nos outils sont accessibles en ligne. Donc, soit des jeunes peuvent les consulter directement, oui. soit ce sont des adultes qui peuvent utiliser ces outils pour aborder des questions directement avec les jeunes. Donc, nous, on peut avoir des animateurs, on peut avoir des éducateurs, des référents qui vont utiliser ces outils mm-hmm. pour pouvoir aborder ces questions-là avec les jeunes, ils se sentent voilà, davantage outillés pour oser aborder ces questions-là.
Oui. Est-ce qu'on a des chiffres sur l'utilisation de ce que vous mettez sur le site ? Est-ce que vous savez comment c'est consulté, par qui, combien de fois ?
Alors, ça va dépendre des outils. Donc, on a des outils qui sont téléchargeables. Donc, il faudrait que je demande à ma collègue
oui,
qui est chargée de communication.
Voilà.
Mais on a des outils téléchargeables. Après, on a un outil qui s'appelle « Y a quoi dans ma banane ?» qui
on
est consultable
parler, oui.
voilà, directement
oui.
en ligne. Mais oui. Voilà, on a des retours. J'ai juste pas là les chiffres
oui,
en,
d'accord,
en
d'accord.
tête.
Mais vous savez que quand oui. vous intervenez peut-être dans les collèges lycée, il y a des jeunes qui vont vous dire « Ah, mais je savais que vous veniez, je suis allée voir et ça m'intéresse. » Ça
alors,
arrive ou pas ?
Alors, on essaye, nous, de faire que les jeunes ne soient pas obligatoirement au courant de qui on est au début,
d'accord.
puisque s'ils arrivent
ah, oui,
sur le site
oui,
du mouvement
oui, oui, oui.
Dini,
ah, oui.
ils vont tomber oui. directement sur oui. la question de la prostitution et ça,
et
ils
oui.
peuvent ne pas comprendre pourquoi,
oui.
pourquoi on vient. Donc, ça peut arriver qu'il y ait des jeunes
oui.
qui soient allés consulter à l'avance et donc très vite, nous, on va répondre à leurs questions ou interrogations s'il y en a, mais c'est plus après les interventions où ils vont repartir avec de la documentation et ils vont pouvoir continuer à réfléchir sur les sujets qu'on a pu traiter nous avec eux pendant les interventions. Et puis il y a d'autres sujets aussi qui sont proposés qu'on n'aura peut-être pas eu le temps de voir. Donc là,
oui.
l'idée c'est qu'ils repartent avec des ressources.
Et des interrogations, des questions et quelques réponses aussi.
Voilà, c'est ça, des ressources avec oui. des forums, des sites où ils peuvent avoir de l'information, mais aussi des ressources physiques, des lieux où ils peuvent se rendre oui. s'ils ont besoin.
Et voyez, quand j'ai présenté le thème d'aujourd'hui, éducation à la sexualité, et que je reçois une association qui s'occupe de la prostitution, moi je sais bien en tant que militante abolitionniste que la prostitution ce n'est pas de la sexualité. En tout cas, pour l'une des deux personnes la personne en situation de prostitution, c'est absolument pas quelque chose qui fait partie de sa sexualité, dans la mesure où on définit la sexualité comme un échange respectueux de plaisir, de relations égalitaires. Alors, est-ce qu'on doit dire le mot de consentement ? On sait que ce mot est trouble parce qu'il ne concernerait que les filles, mais ou quelque chose d'égalitaire et d'intéressant et de désirable, plutôt parler de désir. Est abordé. Donc, je comprends que vous n'arriviez pas en tant que mouvement d'Uni, précisément. Donc, comment vous rentrez dans les établissements scolaires ? Comment
alors,
ça se passe ?
Alors, nous, on a un agrément qui nous a été délivré par le ministère de l'Éducation nationale, qui nous permet d'arriver, d'intervenir dans le cadre du programme scolaire et de la loi de 2001 qui prévoit des interventions chaque année pour chaque niveau de classe. Et donc, on va être sollicité par les établissements scolaires directement, mais on intervient aussi dans des établissements type mission locale ou auprès d'associations partenaires qui accueillent également des jeunes, donc on ne fait pas que du... on n'intervient pas qu'auprès d'un public scolaire.
D'accord.
Donc on va être sollicité directement par ces structures. On va donc proposer des groupes de parole qui vont aborder donc pour les plus jeunes la question des stéréotypes, du sexisme et comment ça impacte leur construction et les relations des jeunes. Et puis avec les plus âgés, on va aborder davantage la vie relationnelle, la vie affective mm-hmm. et la question des violences. Quand est-ce que dans
oui.
des relations... on se retrouve dans des situations de violence parce que parfois le terme de violence n'est pas reconnu, n'est pas nommé. Et donc l'idée, c'est de voir avec les jeunes, qu'est-ce qui est OK ou pas OK dans une relation et comment le contrôle, l'emprise peut s'installer et comment ça peut être compliqué pour une victime de sortir de cette emprise-là. Mais voilà, de donner des repères, de poser des balises avec les jeunes pour qu'ils aient davantage les moyens de se protéger. Mais on intervient aussi également en se disant que l'idée, c'est pas d'intervenir qu'auprès des potentielles victimes, mais aussi d'intervenir auprès des potentiels agresseurs. Et donc, on va intervenir en ayant toujours ce double regard. Et donc, l'idée, c'est aussi de voir qu'il y a des choses qui ne sont pas OK, même si on aime son petit copain ou sa petite copine, il y a des comportements qui n'ont pas lieu d'être et qui ne sont plus de l'ordre de la relation saine et épanouissante.
Quand vous parlez d'agresseurs, je sais que dans le système prostitutionnel, quand on parle avec ce concept-là, il y a la personne en situation de prostitution, il y a le client et le proxénète. Et chez les auteurs agresseurs, les garçons, il faut le dire, hein, surtout à cet âge-là, c'est client et proxénète. Quelquefois les deux, quelquefois l'un ou l'autre. Donc il y a presque une double prévention à destination des garçons. Et j'entends dans tout ça, vous dites groupe de parole, ce sont des groupes de parole mixtes.
Oui, nous on intervient en mixité et on va dès le début poser un cadre qui va être un cadre suivi par tout le monde. On demande aux jeunes de quoi ils ont besoin pour que l'intervention se passe bien.
D'accord.
Et donc on va poser un cadre très clair qui est celui de la tolérance, du respect. On a le droit de ne pas être d'accord, mais par contre il n'y a pas de place pour des propos qui seraient violents ou discriminants et on n'est pas là pour que les jeunes se confient. Donc on appelle ça groupe de parole,
oui, c'est
groupe d'échange.
Moi en tant que psychologue, groupe de parole c'est très particulier
Donc nous on nomme ça groupe de parole dans le côté, c'est un groupe d'échange.
Oui.
Les jeunes sont là surtout pour échanger entre eux. Nous on est là pour ramener de l'information ou des ressources, mais l'idée c'est vraiment qu'ils travaillent entre pairs pour peut-être travailler et revenir un peu sur leur représentation, entendre qu'il y a d'autres manières de voir les choses, d'autres manières de fonctionner pour que les filles et les garçons puissent aussi avoir peut-être un autre regard que des fois les regards un peu stéréotypés qu'ils ont sur les filles ou sur les garçons. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça groupe de parole, mais à aucun moment le but de ces interventions est le but c'est pas que des jeunes viennent se livrer. Ça peut arriver que des jeunes se confient et se livrent en fin d'intervention quand les autres personnes sont parties, mais ce n'est pas le but de l'intervention.
D'accord.
On fait vraiment de la prévention primaire. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler avec les jeunes sur leur représentation et de leur apporter de l'information et des ressources.
Est-ce que ça rentre, ces actions que vous faites, dans les heures d'éducation à la sexualité de l'éducation nationale ?
Oui, exactement.
C'est pas quelque chose de plus, quoi ?
Non, c'est ça. Nous, quand on est sollicité par des collèges ou des lycées, on voit bien comment ils le comptabilisent et ils le comptabilisent sur ces heures-là.
D'accord.
Ce qui est intéressant, c'est que nous, on essaie de travailler avec des établissements qui pense du coup la prévention sur plusieurs années. Donc il y a des actions qui peuvent être menées donc sur plusieurs niveaux.
D'accord.
Avec différents intervenants, mais aussi par du personnel éducatif qui s'est formé sur ces questions-là d'égalité et de promotion de la vie affective et de la vie relationnelle.
Vous m'aviez dit que ça pouvait être des infirmières.
Ça peut être des infirmières.
Des infirmiers, c'est souvent des infirmières dans les collèges et lycées.
Ça peut être des référents égalité,
d'accord,
donc des CPE ou des professeurs qui se sont,
d'accord,
aussi formés sur ces questions.
D'accord. Et ils interviennent, vous les formez, et ils interviennent sans vous ? Ou ils vous font revenir et ils interviennent avec vous ?
Alors, généralement, nous, on intervient que le mouvement du nid.
D'accord. Voilà. Vous avez toute la classe pour vous.
Voilà, exactement. Et ensuite, les référents égalité ou les infirmiers, infirmières scolaires peuvent intervenir soit avant nous ou après nous, soit sur d'autres niveaux. Donc, peut-être l'année d'avant ou l'année d'après. L'idée, c'est vraiment qu'ils aient un parcours, ce qu'ils appellent un parcours citoyen, un parcours qui travaille également la promotion de la santé. Et donc, la question de l'égalité filles-garçons va entrer là-dedans.
Donc vous faites l'éducation, ou ce qui est prévu, c'est l'éducation à la vie relationnelle. Et dans la vie relationnelle, on parle de relations affectives et de relations amoureuses. Quand je vous entends parler de stéréotypes, j'en ai un vieux qui colle aux filles et aux femmes, c'est que pour avoir une relation sexuelle, il faut être amoureux. que c'est mieux quand on est amoureux. Or, ce n'est pas de la liberté, on peut tout à fait avoir des relations sexuelles sans être amoureux. Comment vous passez de l'un à l'autre? Comment vous articulez ça, vie affective, vie sexuelle?
Alors nous, les jeunes, généralement, donc on va aborder la question des relations de manière générale, et donc d'accord. Ils vont pouvoir parler des relations de couple, mais aussi des flirts, ils vont pouvoir parler de sexualité et aussi d'amour. Mais voilà, ils ne font pas obligatoirement le lien entre tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que pour certaines personnes, la question des sentiments va être importante et va de fait avec la sexualité. Pour d'autres, effectivement, les deux se distinguent complètement. Mmh. Et donc, l'idée, c'est de construire en fait des modèles qui soient, dans tous les cas, positifs. Mais voilà, entre eux, ils vont se rendre compte qu'en fait, ils n'ont pas les mêmes, peut-être les mêmes envies, les mêmes besoins, les mêmes désirs, le même vécu. Et donc, voilà, chacun va avoir ses propres limites et ses propres envies.
Et vous arrivez vraiment à les faire parler entre eux? Parce que moi, je suis intervenue déjà dans des classes il y a très longtemps pour faire l'orientation scolaire et professionnelle. Et alors, bon, ben ça, c'est pas un sujet qui est clivant par rapport au genre des enfants, et des collégiens, collégiennes et lycéens. Mais alors, la sexualité, j'ai entendu parler de rires gênés, de personnes qui disent rien, qui préfèrent écrire d'abord leurs questions sur un post-it. C'est comment faire pour instaurer un climat de relative liberté et d'échange de parole? Qu'est-ce que vous faites de spécial? C'est pas simple.
Alors nous, on pose déjà, donc, comme je le disais tout à l'heure, un cadre qui permet que... Donc c'est un cadre qui est posé par les jeunes, ça permet aux jeunes de se sentir en sécurité et de savoir que voilà, on n'est pas là pour parler d'eux. Et ensuite, on va utiliser des outils.
D'accord.
Donc soit des cartes, messages avec des affirmations. Et donc, ce n'est pas eux qui proposent ces sujets-là, c'est, ouais, ils viennent piocher un
voilà,
sujet.
Voilà, c'est ça. Voilà.
Et donc ça, c'est avec les plus petits, et avec les plus grands, on part de mise en situation. Donc on utilise des scénettes avec des personnages où on a affaire à des situations problématiques, et donc les jeunes vont rebondir par rapport aux personnages. Et donc l'idée, voilà, c'est toujours de les mettre un petit peu à distance pour qu'ils se sentent pas, justement, que ça soit pas trop intrusif,
oui,
pour eux.
Pas trop personnel tout de suite, quoi.
Exactement.
C'est ça, parce que j'imaginais une classe, voilà, vous arrivez, c'est l'heure de on va parler de relations affectives, et puis on attend la première question, comme quelquefois dans des conférences, qui c'est le premier qui parle. Donc vous introduisez un média qui permet de se saisir de la question et d'aller oser un petit peu plus loin. Ça dure une heure ou deux heures, ces interventions?
Deux heures.
Deux heures sans pause, sans rien?
Ah si, on fait une pause souvent au bout d'une heure, mais c'est deux heures.
D'accord. Il y en a qui partent?
En fait, c'est sur les heures de cours. Donc,
ah oui, non. Il vaut mieux.
Voilà. Mais il y en a qui peuvent prendre cette liberté, qui l'assument. Mais non, généralement, les jeunes, jeunes restent. Une fois que le cadre est posé, qu'ils ont compris, ils peuvent appréhender avant d'arriver. Mais une fois que se lancer... et on respecte, c'est-à-dire qu'on ne force personne. Si des personnes ne veulent pas parler,
voilà,
elles
ça.
Ne parlent pas.
D'accord, mais ils restent dans la classe. Ils sont
exactement.
Captifs, donc c'est plus facile.
Voilà, et puis ils écoutent aussi ce que les autres vont dire. On sent qu'ils sont concentrés et qu'ils ils entendent ce que les autres disent. Ils réagissent de manière physique.
Oui.
Il y a beaucoup de non-verbal, mais voilà, on respecte complètement le fait que des jeunes ne prennent pas la parole.
Oui, et c'est plutôt les garçons ou les filles qui parlent?
Ça va dépendre des dynamiques de classe, des dynamiques de groupe, mais globalement, les deux vont parler. C'est très changeant d'un groupe à un autre.
Mmh. D'accord. Vous avez parlé deux fois de stéréotypes tout à l'heure, avant qu'on mette la chanson pour la pause. Les stéréotypes sur les garçons, sur les filles, et sur leur interaction, qu'est-ce qui sort déjà? Qu'est-ce que vous pouvez me dire?
Alors, ce qui ressort beaucoup, ça va être cette idée que les garçons sont moins sentimentaux, expriment moins leurs émotions, voire en ressentent moins, et qu'ils en ont rien à faire des relations affectives, qu'ils essayent toujours de garder une image de dur et de fort. Du côté des filles, ça va être plutôt le fait que justement elles sont trop sensibles, qu'elles peuvent être sournoises, elles sont manipulatrices, et qu'elles elles ont un paradoxe, c'est qu'elles veulent des relations épanouissantes, mais elles ne sortent jamais avec des bad boys, en gros. Enfin, elles sortent
elles
jamais
préfèrent...
avec des gentils, elles préfèrent des bad
c'est
boys.
Ça, c'est ça,
donc à nous aussi de réintégrer aussi le fait qu'il y a différentes aussi orientations sexuelles. Donc voilà, ne pas rester toujours dans un schéma comme ça.
Aussi, oui, de liberté, quoi, pour le pauvre.
Oui, et puis même sur la question des orientations sexuelles,
oui.
Voilà, ne pas être toujours dans un schéma comme ça de
l'hétéronormativité. Casser les genres, quoi.
Voilà.
On va faire la pause. Gaëlle, vous avez choisi une chanson de Stromae qui s'appelle « Fils de joie » et on va la lancer.
Être seul, c'est difficile, et là, ça fait des années. Et de juger, c'est facile, surtout quand on n'y a pas goûté. Le plus dur, bah c'était la première fois. Puis le plus dur, c'est de savoir quand en sera la dernière fois. C'est vrai, je suis pas contre un peu de tendresse de temps en temps. Et puis cette fois-ci, ben, je pourrais le faire en l'insultant. Oui, tout est négociable dans la vie, moyenne en paiement. En plus, je suis sûrement son meilleur client. Mais oh, laissez donc ma maman. Oui, je sais, c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite. C'est un héros, et ce sera toujours fièrement que j'en parlerai, que j'en parlerai. Je suis un fils de pute, comme ils disent, après tout ce qu'elle a fait pour eux. Pardonne leurs bêtises. Oh chère mère, ils te déshumanisent. C'est plus facile, les mêmes te courtisent. Et tout le monde ferme les yeux. Pourquoi tout le monde me déteste, alors que c'est moi qui les nourris? Leur vie serait bien plus modeste, sans moi elle serait pourrie. Le lit et la sécurité ont un prix, madame. Ben oui, dans la vie tout se paye. On ne te l'avait donc jamais appris. On m'accuse de faire de la traite d'êtres humains. Mais 50, 40, 30 ou 20% c'est déjà bien. Faudrait pas qu'elles se prennent un peu trop pour des mannequins. Mesdames, ou devrais-je dire putain? Mais oh, laissez donc ma maman. Oui je sais, c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite. C'est un héros, et ce sera toujours fièrement que j'en parlerai.
On reprend l'émission avec Gaëlle Henry du Mouvement du Nid. On est toujours sur FM+. Et nous espérons que ce sont des parents et des grands-parents qui nous écoutent. Ou des jeunes. Des jeunes. Je sais que FM+, interviennent plein de rappeurs. Et donc voilà, c'est vraiment pour tout le monde, ces éducations à la relation affective et sexuelle. On va parler des outils, Gaëlle Henry, qui sont mis en place spécifiquement par le Mouvement du Nid. J'avais lu sur votre site qu'il y avait des vidéos interactives, hein, le piège. La brochure jeune public, intimité, égalité, sexualité. Et j'ai voulu vous faire venir pour présenter le dernier outil que vous avez conçu qui s'appelle « Y a quoi dans ma banane ?» Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, « Y a quoi dans ma banane ?» C'est, on a repris l'image de la banane qu'on avait il y a très très longtemps et que les jeunes ont...
Le petit sac.
Voilà, le petit sac.
Le petit sac autour des hanches qu'on portait, voilà. Et qui se porte aujourd'hui à l'épaule. Hein.
Exactement. Et donc, on s'est dit que c'était un outil, quelque chose qu'on avait qui était très proche de soi, qui était très, très personnel, très intime. Et donc là, l'idée, c'est d'imaginer qu'une personne puisse donc se rendre sur notre site en ligne qui s'appelle donc « Y a quoi dans ma banane ?». On va ouvrir la banane et à l'intérieur, on va avoir différentes choses qui vont permettre de réfléchir sur la question des relations, mais aussi d'avoir des choses qui sont importantes pour nous. Donc, on va avoir des clés, on va avoir un agenda avec du coup toutes les ressources qui peuvent être utiles
donc
pour les jeunes.
Quand on va sur le site, on voit le dessin, la banane ouverte.
Voilà.
On voit des clés, on voit un téléphone, on voit un sifflet, on voit un petit bouquin.
Ouais, c'est ça.
Et un carnet d'adresse.
Voilà.
Et on les ouvre, on clique dessus.
C'est ça.
Et on ouvre chaque outil.
C'est ça. Donc les clés, ça va être du coup des ressources, donc des sites, des numéros qui sont utiles, qui peuvent être utiles pour les jeunes. L'agenda, ça va être vraiment le côté très pratique avec des infos pour à destination des victimes, mais aussi de l'entourage. Qu'est-ce qu'on fait si un ami, une amie se confie à nous?
D'accord.
Comment on fait pour porter plainte? On va expliquer aux jeunes et montrer aux jeunes le cycle des violences, etc., etc. Puis ensuite, on va avoir des jeux interactifs. Donc, on va avoir, par exemple, des écouteurs sur lesquels les jeunes peuvent cliquer. Et ils vont avoir des témoignages de victimes, notamment de victimes de la prostitution.
J'ai pas réussi à l'ouvrir, ça. C'était des voix enregistrées.
Oui, c'est ça.
J'ai pas réussi à l'ouvrir.
Alors, peut-être que ça dépend des...
Allée sur Safari, je suis allée sur Chrome. Sur Chrome, je pouvais tout ouvrir. Mais sur un des liens où on disait écoute les témoignages, je n'ai vu que du texte.
D'accord, mais normalement, nous on l'utilise régulièrement et
d'accord,
ça fonctionne,
juste...
mais à vérifier. Mais
voilà,
quand on clique sur les écouteurs, donc on a des témoignages de jeunes qui ont connu la prostitution et qui sont aujourd'hui des survivantes de la prostitution.
Qui ont pu en sortir.
Voilà, et qui témoignent avec vraiment cette volonté de casser l'image glamour qu'on peut avoir
c'est ça aussi le piège.
Prostitution. prostitution. Et donc l'idée, c'est intéressant parce que ça permet aussi de voir comment la prostitution peut se présenter de plein de manières différentes, peut avoir plein d'aspects,
de visages,
de visages
visage
différents.
Tentant.
Voilà,
le biais de l'argent. Alors qu'on nomme maladroitement argent facile, parce qu'il n'y a vraiment rien de facile, mais rien du tout dans la prostitution, dans la passe.
Mais c'est davantage le côté rapide qui va peut-être, qui peut appâter.
Ouais, c'est rapide que c'est facile,
ah,
on
non,
le sait.
Évidemment, mais voilà, donc là, ça permet de voir la réalité
de l'acte,
et du système mis en place. Voilà, l'idée, c'est vraiment de montrer que, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est pas une jeune fille qui va se livrer à la prostitution, il y a un système qui est venu la mettre sous emprise. Et donc, comme on a abordé la question de l'emprise qui peuvent s'opérer dans d'autres relations, là, on voulait aussi en parler dans le cadre de la prostitution. Après, on va avoir une BD sur lesquelles les jeunes donc, peuvent cliquer, et ça aborde la question des violences sexuelles au sein du couple. Donc, un couple de jeunes, une jeune fille qui va se confier à une amie et expliquer ce qui s'est passé avec son actuel petit copain, et quelle réaction a cette amie. Ensuite, on va avoir un plan, donc comme un plan à la Où est Charlie, donc un plan de ville avec plein de personnages, et là on va demander aux jeunes de repérer des situations de violence et de discrimination, et donc ça va permettre aux jeunes d'accéder à des mises en situation qui abordent la question de la grossophobie, du harcèlement scolaire, la question des violences sexistes, des violences sexuelles, à travers des personnages, et avec toujours à la fin des ressources.
D'accord. Et ça sensibilise sur des sujets auxquels il n'y aurait peut-être pas pensé.
En gros, l'idée, nous, c'est vraiment de le penser dans un continuum des violences et de montrer qu'il y a un lien entre toutes ces violences.
C'est pas typiquement prostitution.
Exactement.
C'est dès qu'il y a violence, il y a risque d'emprise, et quand on est sous emprise, et on peut être, on parle de contrôle coercitif aussi aujourd'hui pour les violences dans la conjugalité, dans les couples, on peut être d'une telle fragilité, vulnérabilité, qu'on ne voit pas, on repère pas tout de suite ce qui peut être agressif, violent, et dans quoi l'autre essaie de nous faire entrer.
Et l'idée, c'est aussi de permettre aux jeunes de repérer aussi comment certaines personnes vont utiliser ces vulnérabilités, vont repérer ces vulnérabilités pour mettre en place justement un système de contrôle et d'emprise, et faire soi-disant accepter des violences. Et donc nous, on va aborder ça donc à travers ce jeu, et on a également un portable, donc les jeunes vont pouvoir cliquer sur le portable, et donc là, ce sont des échanges entre deux jeunes qui sont en couple, et où justement on voit les techniques, les stratégies de l'agresseur, donc à travers du chantage, de la manipulation, comment le petit copain va essayer de faire soi-disant, pareil, encore une fois, accepter à sa petite copine des choses qui sont de l'ordre de la violence.
On a vu ça dans le film Noémie dit oui.
Exactement.
Hein, comment cette jeune fille, j'avais alors aimé ce film pour ce qu'il dénonçait, parce que quand son lover boy, on appelle ça le lover boy, lui dit ah ben écoute, pendant les courses à Montréal, les courses de voiture, on va se faire du fric, tu vas te prostituer deux jours, tu vas recevoir des clients deux jours. Ça dure pas longtemps, et elle lui dit mais pourquoi c'est pas toi, pourquoi c'est pas toi qui va le faire. Oh, la question qui tue. Il n'était pas préparé. Hein, mais voilà les stratégies, quoi. Je t'aime, donc fais ça pour moi, ça dure pas longtemps, tu sais, c'est juste un copain, j'ai besoin d'argent, on a besoin d'argent, partir en vacances après, c'est terrible ça.
Et de voir en fait comment la jeune fille dit stop, dit non, et comment malgré tout ce système, elle finit quand même par malheureusement tomber dans ce piège. Et donc nous, c'est important de toujours imaginer la question des violences avec cet aspect-là de système, et de dire,
Exactement.
En fait, c'est pas une victime qui se retrouve dans cette situation-là. Il y a tout un système qui fait elle a pas le choix.
Oui, parce que ça peut être la copine qui est déjà dans ce système-là et qui lui dit, mais tu sais, moi, je le fais déjà. Donc, c'est la conscience, c'est pas toujours que c'est drôlement violent et que ça va entraîner des traumatismes, parce qu'il y a des traumatismes psychiques qu'on vit, la dissociation pendant la passe pour supporter. Et elle voit le côté glamour, le côté je fais ça pour l'homme que j'aime. Et il n'y a pas que moi qui le fais, donc il n'y a pas que moi qui le fais, ça veut dire que c'est faisable. Quoi.
Donc nous, voilà, on va retravailler tous ces aspects-là avec différentes entrées. Et l'idée, c'est vraiment que les jeunes puissent s'y retrouver. C'est-à-dire que quand ils vont arriver sur cette plateforme, il y a quoi dans ma banane ? Il y a différentes choses qui sont proposées et donc on est sûr que là-dedans, voilà, les jeunes vont pouvoir trouver une entrée qui les intéresse.
D'accord. Et pouvoir en parler avec leurs parents.
Par exemple.
Il y a quelque chose aussi qui est fait.
Du coup, dans les ressources.
En parler à deux.
Voilà, dans l'agenda ou dans les clés, on a vraiment accès à plein de ressources. Et donc, effectivement, des parents, mais même moi, je pense à des professionnels qui sont au contact de jeunes, peuvent utiliser cet outil en disant tiens, j'ai découvert ça, qu'est-ce que t'en penses ? Et le découvrir ensemble avec soit le côté témoignage, soit le côté jeu interactif où on va essayer de repérer les violences qui existent, soit avec donc, ce fameux petit copain qui essaye de nous embrouiller, de nous mettre en place tout pour qu'on craque face à différents types de situations. Donc voilà, il y a tellement d'entrées possibles que je pense que n'importe quel jeune peut s'y retrouver.
Oui. Et c'est diffusé comment dans les collèges et lycées où vous allez vous en parlez déjà ? Vous avez un visuel sur la table là, qui décrit bien. Est-ce que ce visuel, on le trouve dans les couloirs des collèges et lycées ?
Alors, nous, on amène un QR code pour que les jeunes puissent directement flasher le QR code. Après, là, on est en train de réaliser justement tout un kit de prévention pour que les professionnels, notamment qui sont en établissement scolaire, puissent s'emparer de cet outil. Là, on est au tout début. Et donc, l'idée, c'est vraiment qu'on le diffuse un maximum. Et donc, pour accompagner cet outil, on est en train de réaliser là un kit.
D'accord.
Un kit qui va permettre aux professionnels de pouvoir diffuser directement auprès des jeunes cet outil. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet de toucher des jeunes que le mouvement du Nid ne rencontre pas. Et c'était vraiment l'idée de dire, nous, on ne peut pas rencontrer tous les jeunes.
Bien sûr, oui.
Et donc là, on a un outil qui permet de toucher tous les jeunes.
Et vous en faites de la promotion comment ?
Alors du coup, on a donc envoyé cet outil auprès des professionnels de l'éducation nationale. On le diffuse auprès de nos autres partenaires.
Oui.
L'idée, c'était aussi de toucher des jeunes qui ne sont pas en milieu scolaire. On a fait une...
Dans les maisons d'enfance ?
Par exemple, on a fait une journée aussi de lancement où on a invité différents partenaires à Paris pour présenter cet outil. On l'a diffusé dans les médias. On a aussi des comptes sur les réseaux sociaux spécifiques avec « Y a quoi dans ma banane ?». L'idée, c'est de multiplier les outils pour qu'il y ait un maximum d'approches différentes. Donc, c'était vraiment dans la continuité des documents papier qu'on a et qu'on diffuse auprès des jeunes, mais c'est aussi en complément des vidéos qu'on a, et donc notamment la vidéo Le Piège qui aborde la question de la prostitution des mineurs et qui est une vidéo interactive où les jeunes vont choisir justement ce que le personnage doit faire dans cette situation-là. Et l'idée, c'est qu'à la fin de la vidéo, ils comprennent qu'en fait, peu importe le choix que va faire la victime, malheureusement, la responsabilité ne repose pas sur elle, c'est vraiment le reste du système, les autres acteurs du système qui viennent la manipuler et la mettre sous emprise.
Et lui faire réaliser à un moment qu'elle est victime, ça c'est très difficile.
C'est ça, mais l'idée c'est de dire en fait on est là, c'est-à-dire que le jour où la victime aura besoin, on sera là et ça peut arriver très tard, mais en tout cas on sera là et il y a des choses, des ressources, des dispositifs qui permettent de prendre en charge et d'accueillir, accompagner les victimes.
Oui, vous accompagnez des jeunes mineurs, vous êtes habilité pour ça ou
Nous, certaines délégations peuvent faire du co-accompagnement de mineurs. Nous, à Montpellier, on n'accueille pas de mineurs puisqu'il y a d'autres structures, d'autres dispositifs qui le font.
D'accord. Donc, vous êtes allé porter aussi ça à la maison des adolescents. Je vous dis ça parce que c'est en centre-ville, je passe souvent devant.
Oui, oui. La maison des adolescents l'a diffusée sur son site internet
et
donc dans les ressources.
D'accord. Voilà. Donc, c'est un nouvel outil qui est interactif, qui utilise les techniques d'aujourd'hui, qu'on peut télécharger. Il y a un code queer et puis un code queer. Queer code, c'est comme ça qu'on dit. C'est la fin bientôt. Et vous espérez toucher plus de jeunes, même ceux qui ne sont pas effectivement dans les collèges et les lycées, et surtout que ça suscite des interactions. Est-ce que vous abordez la pornographie ? Faire attention, parce qu'on sait que vous intervenez 2 heures par an, une fois... et qu'ils ont sur leur téléphone et sur leurs ordinateurs accès à d'autres façons de voir les relations. Est-ce que vous abordez cette problématique dans... Est-ce qu'il y a ça dans la banane?
Alors, en fait, il y a la question du racket, justement, de photos ou de vidéos intimes. Voilà,
par ce biais-là,
qui pourrait ensuite être diffusé sans notre consentement et sans notre accord. Voilà, il y a des plus encore une fois cet aspect-là dans le côté relationnel. L'aspect pornographie, nous on l'a abordé dans une vidéo qui s'appelle Pornographie hors cadre, où là l'idée c'était de montrer les dessous justement de l'industrie porno et d'expliquer la réalité que les actrices peuvent subir sur les tournages de films pornographiques.
Oui, je ne l'ai pas vu. Pornographie hors cadre, ça s'appelle. Voilà, je ne l'ai pas vu sur le site.
En gros, ça va être... on a simulé un reportage donc avec un journaliste qui suit des professionnels de l'industrie pornographique en France.
Les actrices, les
fameuses... Pas que, du coup, c'est toute l'industrie avec le producteur, le réalisateur. Et donc, on voit en fait au début l'aspect très, très glamour qu'on essaye de nous montrer. Et ensuite, on suit la actrice après un tournage qui va elle révéler du coup la réalité de ce tournage avec des pratiques qu'on lui a imposées, avec le fait qu'on ne respecte pas ses limites, avec le fait que son image est diffusée sans qu'elle n'ait aucun contrôle et aucune maîtrise de cela. Et donc là on a voulu nous faire une vidéo spécifique sur la question de la pornographie. D'accord. Pour montrer la réalité de cette industrie et faire le parallèle aussi avec ce qui se passe dans la prostitution, où on remarque exactement les mêmes schémas de contrôle, d'emprise et les mêmes conséquences.
Il nous reste 3 minutes, Gaëlle. Je voudrais qu'on se tourne du côté du client. Ce client de prostituée mineure qui passerait aisément de la prostituée majeure à la prostituée mineure parce que c'est un nouveau produit, parce que c'est de la pédocriminalité. Il risque cher quand même, 45 000 euros d'amende, si tant est qu'il y ait des dispositions gouvernementales pour mettre en place la recherche de clients. Qui, comme disait un auteur suédois, dans la mesure où des hommes peuvent trouver des personnes en situation de prostitution sur le net, la police peut aussi les trouver. Qu'est-ce qu'on sait de ces hommes-là qui sont clients de jeunes filles et des jeunes garçons?
On sait que ce sont en très très grosse majorité des hommes,
ça, c'est sûr.
Que ce sont des hommes... on peut avoir cette image de miséreux sexuel. En fait, quand on regarde les différentes études, on remarque que ce sont des hommes qui vivent en couple, qui sont pères de famille, qui a priori n'ont pas de difficultés à construire
relation.
Voilà. Mm-hmm. On remarque dans leur discours que souvent, ils vont chercher dans la prostitution la possibilité d'assouvir des fantasmes, ou en tout cas de distinguer une sexualité. Il y a des choses qu'ils ne feraient pas avec leur partenaire et qu'ils imposent à des personnes en situation de prostitution parce qu'elles sont là pour ça et parce qu'ils ont payé.
Parce qu'ils pensent qu'elles sont là pour ça.
Voilà. C'est exactement
parce
ça.
Parce qu'ils ont payé.
Voilà. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment dans ce côté. Ce sont des consommateurs.
Oui.
Ce sont, je pense, des gens qui déconsidèrent complètement les femmes.
Oui, qui les voient comme des objets.
Voilà, et qui vont avoir un rapport très, très auto-centré de leur sexualité. Ils s'en fichent de la réciprocité, ils s'en fichent du désir et de l'envie mutuelle.
Mais il y en a qui pensent que... Enfin, je dirais que c'est les plus naïfs. Qui pensent qu'en faisant ce qu'il faut, la personne va jouir. Et comme c'est, j'avais fait un café du genre au tout début des cafés psyché genre, où on disait que c'était un marché de dupes, la prostitution. Ils pensent qu'ils vont faire jouir une femme parce qu'elles font semblant. Donc voilà, il y a ça aussi, qu'ils apportent quelque chose, quoi. Ils viennent être utiles.
Mmh. Je ne suis pas sûre que ça soit la majorité là, dans les retours qu'on a. Dans les retours qu'on a, par exemple,
d'accord.
Notamment des stages qui sont menés auprès des clients pour les responsabiliser, on voit davantage le côté consommateur.
C'est mon plaisir qui compte. C'est
voilà,
mon plaisir
exactement.
Qui compte, si tu en as un petit peu...
Et puis le côté performance, c'est-à-dire je veux pouvoir avoir un nombre de conquêtes soi-disant énorme, pouvoir avoir accès à des femmes de différentes nationalités, de différentes origines.
Enfin,
il y a quelque
ça.
Chose
ça, c'est un marché.
Voilà.
C'est un marché terrible, raciste, sexiste, très violent. Mm. On va s'arrêter, Gaëlle. Je vous remercie infiniment d'être venue présenter ce nouvel outil. Je voudrais signaler aussi, il y en a un petit peu partout, des violentomètres. C'est un outil qui permet aux jeunes filles et aux jeunes garçons, et puis aux couples aussi, de voir quand la relation est saine, quand il y a de la violence dans le couple et quand les personnes sont en danger. Et c'est à portée de tout le monde. Et qu'est-ce qu'on peut, en mai 68, puisque cette émission va être diffusée en mai, on disait « Faites l'amour, pas la guerre ». Alors faites l'amour en essayant de vous rendre compte que votre partenaire a du désir et qu'il est partagé et que ce soit agréable pour les deux. Voilà. Merci beaucoup.
Merci
au mois prochain. Au revoir.
Au revoir.
Le féminisme de
Françoise Mariotti.